Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de la formation complémentaire GEBS à la baisse. Je vais vous donner des conseils pour bien démarrer cette formation et pour en tirer le meilleur parti. Et ensuite, on va enchaîner avec les bases à connaître pour profiter des baisses. Tout d'abord, avant qu'on commence, je souhaite vous remercier d'avoir rejoint cette nouvelle formation complémentaire à GEBS pour profiter des baisses. C'est un énorme gage de reconnaissance pour la qualité de mon travail, pour la qualité de ma méthode et de mes longues années de recherche et de pratique. Donc un grand, grand merci du fond du cœur. Alors, cette nouvelle formation repose sur GEBS et ses concepts, mais elle est plus avancée que GEBS. Il faut donc d'abord maîtriser gagner en bourse simplement avant de pouvoir faire GEBS à la baisse. Elle doit donc se faire obligatoirement après GEBS. Si vous n'avez pas encore fini GEBS, que vous soyez au début, que vous soyez au milieu ou vers la fin, je vous recommande d'aller jusqu'au bout de GEBS d'abord. Finissez-la complètement, passez à la pratique en environnement de test et si possible en environnement réel aussi, avant d'attaquer GEBS à la baisse, tout simplement pour ne pas tout mélanger, pour ne pas mélanger les concepts, les approches. Sinon, vous risqueriez de vous attaquer à un morceau qui est encore beaucoup trop gros pour vous à l'étape à laquelle vous en êtes actuellement. Alors, GEBS à la baisse, c'est un septième module, d'accord, qui est plus dense et qui est beaucoup plus avancé pour profiter des baisses une fois que vous savez profiter des hausses. Donc, vous avez trouvé en haut dans les menus du site privé de la formation un septième module qui s'est maintenant débloqué pour vous. Tout en bas, d'accord, c'est GEBS à la baisse. Ce nouveau module suit plus ou moins la même trame que la formation de base GEBS, mais en étant plus synthétique et plus rapide. C'est évident puisque vous connaissez déjà bien tous les concepts de base et toutes les techniques à la hausse que on a vu dans GEBS. Alors, ce septième module est constitué d'une douzaine de cours, plus longs, plus pointus, plus intense que dans la formation de base. On voit d'abord les bases à connaître pour pouvoir profiter des baisses et les contraintes liées à cette approche. C'est le sujet de ce tout premier cours. Ensuite, on regarde et on installe les nouveaux indicateurs et screeners maison pour aller chercher ces baisses explosives. Après, on verra ensemble les différentes techniques pour profiter de ces fortes baisses, comme la tempête haussière par exemple, donc la tempête haussière après un calme plat, un petit peu le scénario inverse de ce que vous savez faire à la hausse. Mais on va voir aussi d'autres techniques, d'accord, plus poussées, comme par exemple le spasme haussier, le breakout haussier qui échoue. On va voir aussi le climax run haussier, d'accord. Donc tout ça, ce sont des approches qui sont différentes de ce que vous avez pu voir déjà à la hausse. On verra aussi ensuite les instruments financiers pour pouvoir bénéficier des baisses qui sont des instruments qui sont plus complexes que ceux qu'on utilise pour les hausses, d'accord? Avec en particulier, on verra un instrument spécifique qui est la VAD, donc c'est la vente à découvert. Après, on abordera la pratique, d'accord, avec de nombreux exemples concrets et réels qui fonctionnent. Et comme pour GEBS, on verra aussi des exemples qui ont échoué. Alors on va voir tout ça au travers des différentes techniques que je viens de mentionner précédemment. Ensuite, on se penchera sur les différences au niveau du money management et de la gestion du mental, d'accord, dans ce contexte qui est la baisse et qui varie considérablement, et qui est aussi plus dur à gérer que le contexte de la hausse. Donc il y avait un module dédié au money management dans GEBS, un module dédié au mental. Ce sont deux aspects qui sont extrêmement importants à connaître. Pour la baisse, c'est important aussi, mais vous allez voir que le contexte est différent, la donne est différente et qu'il va donc falloir travailler légèrement différemment. Et il y a aussi évidemment plein de nouveaux bonus qui sont dans le même style que ceux de GEBS, donc des bonus qui vous plaisent particulièrement d'après les sondages que vous remplissez régulièrement à la fin des différents modules. Comme nouveau bonus, on va retrouver des fiches de synthèse, on va trouver une nouvelle feuille de gestion du risque qui est adaptée aux techniques pour la baisse, sans oublier bien évidemment l'import automatique et le code informatique qu'on verra pour les nouveaux indicateurs et les nouveaux screeners maison. Comme avec GEBS, les cours seront toujours là pour vous et vous pouvez avancer à votre propre vitesse. Donc, ne vous inquiétez pas si vous prenez du retard. Pour information, si vous avez déjà accès à la version premium de GEBS, alors les vidéos de suivi hebdo chaque week-end et les séances de coaching commun chaque mois parleront aussi des baisses. Donc, vous pourrez poser vos questions lors de ces séances de coaching commun, si elles sont, même si elles sont liées aux baisses, d'accord? Les séances de coaching commun regroupant aussi bien GEBS que GEBS à la baisse. Et les suivis hebdo, c'est pareil. Elles commenceront par les hausses et ensuite elles continueront par les baisses. Et si vous n'avez toujours pas accès à la version premium et à l'accompagnement supplémentaire, vous le savez, vous pouvez faire un upgrade de la version standard à la version premium à tout moment. Et dans ce cas, vous aurez toutes les armes, évidemment, pour comprendre tous ces aspects. Allez, on attaque maintenant ce nouveau module et le tout premier cours avec les bases pour profiter des baisses. Alors, d'abord, la grande question, pourquoi opérer à la baisse? Vous devez déjà avoir quelques bonnes idées des réponses, sinon je pense que vous ne seriez pas là aujourd'hui. Alors, vous savez que le problème, c'est que quand les marchés sont baissiers ou sont sans réelle tendance, d'accord, c'est bien de redevenir cash pour protéger votre portefeuille et pour diminuer les risques. Heureusement, vous avez les zones pour déterminer cette tendance facilement et rapidement, et c'est encore plus facile avec l'indicateur de zone qui est disponible dans le module 3 de GEBS en bonus. Donc, en zone rouge et parfois en zone orange, il vaut mieux redevenir cash, c'est-à-dire donc diminuer vos positions ouvertes, les diminuer aussi bien en nombre qu'en taille, pour pouvoir diminuer votre niveau d'exposition, donc votre niveau de risque. Et quand on connaît que ça, d'accord, c'est déjà bien, c'est déjà plutôt pas mal. C'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans GEBS, mais c'est pas la meilleure des choses à faire. Le mieux, c'est aussi de profiter des baisses en zone rouge, parfois en zone orange, et même profiter des baisses en zone verte aussi. On verra dans la suite de la formation que c'est aussi tout à fait faisable, même en zone verte. Alors, c'est dommage de laisser dormir votre argent, c'est pas une allocation intelligente ni optimisée de votre capital. Cette notion-là, vous l'avez tous plus ou moins instinctivement, d'accord? Maintenant, regardons tout ça plus en détail. Pourquoi opérer à la baisse? Alors, on va commencer par regarder quelques graphiques et un tableau pour que vous compreniez rapidement l'intérêt d'opérer à la baisse. Ça va paraître encore plus évident pour les membres qui ont d'ailleurs déjà traversé des tendances ou des périodes baissières. Voici d'abord donc quelques graphiques de tendances globales historiques des principaux marchés sur lesquels on a l'habitude d'opérer traditionnellement avec GEBS, en commençant par un graphique sur une période très longue avec le DJIA, donc DJIA, c'est-à-dire le Dow Jones Industrial Average, donc qui est affiché sous vos yeux. Alors, ce graphique remonte quasiment au début des années 1900, d'accord, pour terminer à les années 2000, 2015-2016, d'accord, sur la partie droite du graphique. Alors, en gros, de 1900 à 1980, on voit qu'on a une tendance haussière, mais on voit aussi qu'on a beaucoup de tendances plates, d'accord, donc sans réelle tendance. Donc, rapido, on pourrait dire qu'on est en zone verte, orange de temps en temps, et très rarement en zone rouge, d'accord. Ce scénario-là est beaucoup plus flagrant à partir de 1980 jusqu'à aujourd'hui. On voit qu'on est beaucoup plus en tendance haussière. Les marchés financiers sont foncièrement haussiers, d'accord. De temps en temps, on a quelques petits sommets ou quelques zones plates, donc sans réelles oscillations, sans tendance réelle. On a des périodes baissières fortes et soudaines, mais qui dure pas très très longtemps, et ensuite on repart de nouveau en tendance haussière, et puis on a une véritable chute brutale de nouveau, et ensuite pendant longtemps sur de la tendance haussière. Alors ça c'est un exemple avec le Dow Jones, d'accord? On va regarder les autres marchés sur lesquels on a l'habitude d'opérer pour voir ça un peu plus près. Donc là on est sur le Nasdaq, je suis sur une échelle de temps annuelle. D'accord, donc une bougie représente une année. On voit qu'on arrive à remonter aux alentours de 1970 en arrière dans Pro Real Time. D'accord, donc ces graphes-là, vous pouvez les obtenir et les construire facilement vous aussi dans Probable Time. Il suffit tout simplement de vous mettre sur une unité de temps annuelle, de dézoomer au maximum. Et malheureusement, si vous êtes en données, en accès des données gratuites, ce que je vous recommande fortement aussi bien pour à la hausse que pour la baisse, vous ne pourrez pas remonter à plus que 1970, en tout cas pour le Nasdaq. Ça va dépendre un petit peu des différents indices. Et j'ai représenté avec un petit indicateur tout en bas, d'accord? On n'arrive pas trop bien à lire l'indicateur, je l'appelais hausse-baisse, d'accord? Pour matérialiser les années haussières et les années baissières, pour donner une tendance générale depuis les plus de 40-45 dernières années sur le Nasdaq. Alors, si on compte le nombre de bâtonnets rouges, ça nous donnera les années baissières, et les nombres de bâtonnets verts, ce sont les années haussière, d'accord. On va faire plus ou moins abstraction des périodes sans réelle tendance, d'accord. Et on va donc arrondir en gros entre est-ce qu'on est sur une année haussière ou une année baissière. Donc le Nasdaq, là, si on compte, on a 14 bâtonnets rouges, donc 14 années baissières sur les 45 dernières années et 32 années haussières. Donc on a un rapport de 14 sur 32 pour les baisses par rapport aux hausses. D'accord? Au passage, vous remarquerez une très jolie tasse en annuel sur le Nasdaq avec un breakout qui avait eu lieu sur la bougie ici, donc sur l'année 2013. D'accord? Avec une augmentation des volumes. Et ensuite, on voit que depuis les 3 dernières années, donc 2014, 2015, 2016, la hausse ralentit et les volumes sont toujours particulièrement élevés. Pour cette fois-ci sur le S&P 500, donc on a de nouveau un indicateur en bas hausse-baisse pour nous matérialiser les années haussières, les années baissières. On est donc sur le S&P 500, toujours sur les marchés américains. Si vous comptez, je vais vous épargner le décompte. On a 20 baisses depuis en gros 1950. D'accord, donc on est sur une période plus longue sur le S&P 500. D'accord, c'est un marché qui est plus ancien que le Nasdaq. Et on a donc 20 baisses pour 47 hausses. De nouveau, on a une très jolie figure graphique que je n'ai pas matérialisée sur le graphique. Ceci dit, on voit un très joli rectangle plat, d'accord, avec, on a eu un fort breakout pour l'année 2013 de nouveau, fort breakout avec augmentation des volumes aussi. Derrière, on a eu une continuation de la hausse et maintenant, on a un léger pullback, d'accord. Les cours freine. Ceci dit, on a toujours une forte augmentation des volumes, ça veut dire encore une grosse incertitude sur les marchés. Donc 20 baisses pour 47 hausses. Pareil sur le DAX pour le marché allemand, cette fois-ci on remonte aux alentours des années 1970 pour le début, pour 15 baisses par rapport à 32 hausses. Le CAC 40, cette fois-ci, alors on remonte seulement aux années 1986-1987, avec 12 baisses pour 18 hausses. D'accord, on a un joli triangle symétrique sur le CAC 40 avec une résistance, alors une fois de plus que je n'ai pas matérialisé, mais une résistance qui est baissière et un support qui est légèrement haussier et qu'on a du mal à venir casser. On termine sur les différents indices. Cette fois-ci, on est sur le FTSE 100, c'est-à-dire le LSE, le London Stock Exchange, donc les marchés britanniques. Et cette fois-ci, on a 11 baisses pour 22 hausses depuis 1984. Voilà, donc ça c'était les 5 indices sur lesquels on se base en général pour la tendance des marchés et les différentes zones dans lesquelles on est. Alors j'ai synthétisé de nouveau, résumé, synthétisé tout ça dans un tableau. D'accord? Alors la colonne de gauche, c'est les marchés, donc les 5 marchés qu'on vient de voir. Le nombre de hausses que je viens de vous lister. Ensuite, on a le pourcentage de hausses. Ensuite, le nombre de baisses qu'on a vu aussi, le pourcentage de baisses par rapport au nombre de hausses, par rapport au total, et le nombre d'années qui ont été considérées sur les différents marchés. Et tout en bas, on a la moyenne sur ces marchés. Alors, comme vous pouvez le constater, donc pour le Nasdaq, en gros, le Nasdaq est 30% baissier pour 70% haussier. Le S&P 500, c'est à peu près pareil, 30% baissier pour 70% haussier. Pour les marchés européens, on a 32% haussier pour le Nasdaq, 68% haussier, toujours pour le Nasdaq. Le CAC 40 a un nombre rond, 40% baissier, 60% haussier. Donc historiquement plus souvent baissier que haussier par rapport aux autres marchés qu'on a vus jusqu'à présent. Et le LSE, 33% baissier pour 67% haussier. Ça nous fait donc une moyenne en gros de 33% pour les marchés les marchés sont en baisse 33% du temps et sont haussiers 67% du temps, ce qui correspond plus ou moins à du 1 tiers, 2 tiers. Donc un tiers du temps, les marchés sont baissiers, deux tiers du temps, les marchés sont haussiers. Voilà, donc les mouvements de baisse, comme on va le voir, sont plus rares, sont beaucoup plus rares historiquement que les mouvements de hausse. Par contre, comme on va le voir, c'est encore plus facile d'en profiter et les gains sont surtout encore plus importants. Alors, regardons maintenant de plus près les avantages à opérer à la baisse. Alors, généralement, c'est plus prudent de suivre la tendance. D'accord? En tout cas, à la hausse et à la baisse, c'est partiellement vrai aussi. Donc, on va reparler de ce concept partiellement vrai par la suite, mais c'est généralement plus prudent de suivre la tendance. Donc, si la tendance est baissière 33% du temps, donc un tiers du temps, il sera plus prudent d'aller essayer d'aller chercher des baisses pendant cette période de temps plutôt que d'aller chercher des hausses. Alors, opérer à la baisse, ça nous permet aussi d'opérer donc au moins un tiers du temps en plus, voire plus. Donc, un tiers du temps, quand on est en marché en zone rouge, ça va nous permettre d'opérer aussi, et voire même plus, puisque, comme on le verra avec les différentes techniques par la suite dans le module, il est même possible d'opérer à la baisse quand on est en zone orange, voire même en zone verte. Donc, ça veut dire d'opérer encore plus qu'un tiers du temps possible. Les gains en opérant à la baisse sont encore plus rapides, tout simplement parce que les mouvements de baisse sont encore plus brusques, plus soudains et beaucoup plus puissants que les mouvements de hausse. C'est particulièrement vrai au début, et comme on l'avait déjà vu aussi dans Gagner en Bourse Simplement, ça se justifie de manière très très simple, c'est que la plupart du temps, les mouvements de baisse sont justifiés par des mouvements de panique, d'accord? Donc des mouvements plus soudains et plus puissants. Et du coup, ça veut dire que ces mouvements sont encore plus faciles à repérer et plus faciles à prédire. Quatrième avantage à opérer à la baisse, c'est que peu de personnes profitent des baisses ou savent profiter des baisses. C'est plutôt ça le problème en fait. Et ça vous donne donc un réel avantage sur le reste des intervenants sur les marchés boursiers. Sixième et dernier avantage, c'est que peu de formations sur le sujet sont disponibles aussi, du coup, puisque peu de personnes pratiquent véritablement la baisse. Donc il y a peu de formations, aussi bien en anglais qu'en français, et c'est encore plus vrai pour les formations en français. Alors, on va voir maintenant que c'est aussi dû à des inconvénients qui sont liés aux baisses. Alors, quels sont ces inconvénients? Quels sont les risques liés à vouloir profiter des baisses? Premier inconvénient, c'est que on peut s'en servir au final qu'un tiers du temps, d'accord, et donc pas la majorité du temps. Et donc la majorité du temps, il vaut mieux profiter des hausses en général. Les marchés, comme on l'a vu, sont foncièrement haussiers de toute façon, comme on l'a vu avec les différents graphiques sur les différents indices. Donc au final, on va pouvoir en théorie utiliser les baisses que un tiers du temps. En gros, on a vu que ça allait même être un peu plus que ça, d'accord? Mais n'empêche que ça ne sera pas la majorité du temps. Il y a aussi plus de chances que vous vous retrouviez contre la tendance en opérant à la baisse, d'accord? Une fois de plus, on a vu qu'on n'est qu'un tiers du temps à la baisse, donc vous avez plus de chances de vous retrouver sur un retournement de tendance ou à contre-tendance en opérant à la baisse que quand vous opérez à la hausse. En opérant à la hausse, même si vous faites n'importe quoi d'une certaine manière, les marchés haussiers seront fréquents plus souvent et donc auront plus tendance à vous porter vers le haut. D'accord? Donc vous avez plus de chances de vous retrouver contre la tendance, mais une fois de plus, on va voir plus loin que ce n'est pas nécessairement un problème. Le plus gros problème en revanche, c'est que c'est plus difficile à faire dans la pratique d'opérer à la baisse. Alors, c'est plus difficile pas dans le sens à savoir détecter des scénarios baissiers, puisque il y a mes nouveaux indicateurs et mon screener et la méthode que vous allez découvrir au fur et à mesure de cette formation. Mais c'est plutôt dans le sens où les outils et les instruments financiers à manipuler sont plus complexes et sont moins accessibles et parfois même plus chers. Alors, ça va être le sujet de deux autres cours qui y sont totalement dédiés et qu'on verra par la suite. Quatrième inconvénient et qui est lié, ça signifie aussi que pas toutes les actions sont disponibles pour pouvoir profiter des baisses. Alors même si vous trouvez une super action sur laquelle vous êtes persuadé que les cours vont baisser, ou si en appliquant, en faisant tourner le screener à la baisse et en appliquant les règles, vous trouvez une super belle opportunité, tout est parfait pour pouvoir profiter de la baisse, malheureusement, c'est pas forcé que vous puissiez en profiter. Votre courtier ne vous le permettra peut-être pas, ou il n'y a peut-être pas d'instrument financier disponible pour pouvoir aller chercher et profiter de cette baisse, malheureusement. Donc ça, c'était le quatrième inconvénient. On verra ça de manière plus précise de toute façon dans la pratique dans un cours suivant. Cinquième inconvénient, c'est que comme les baisses sont un monde un petit peu nouveau ou plus récent en tout cas, et qu'il y a des différences par rapport aux hausses, il y a aussi certaines règles spécifiques, comme l'interdiction temporaire imposée par un organisme de régulation dans un pays, d'essayer de profiter de baisses. Alors, ces interdictions sont mises en place souvent pour éviter la débandade du cours sur une action en particulier, par exemple, ou en cas de procès, ou en cas de très mauvaise annonce de résultats ou annonces liées aux résultats économiques de l'entreprise. Alors vous imaginez maintenant la même chose à l'inverse, imaginez un organisme de régulation qui dit d'un coup c'est interdit d'acheter une action parce que les cours montent beaucoup trop d'un coup. Alors là j'aimerais bien voir ça, d'accord? Ça me fait rigoler et c'est pas prêt d'arriver. Malheureusement, ça n'existait pas à la baisse il y a encore quelques années, ça existe maintenant. Pas tous les pays, pas tous les marchés financiers le font, mais ça arrive quand même parfois que pendant certaines périodes, dans ces cas-là, on verra des annonces, vous aurez des annonces auprès de votre broker ou dans les médias de toute façon, comme quoi il est interdit de profiter des baisses sur telle ou telle action, parce qu'il y a justement beaucoup trop, une chute beaucoup trop importante. D'accord? Donc ça, c'est un inconvénient, donc il faut être conscient et dont il va falloir faire attention et s'en prémunir par la suite. C'était le cinquième inconvénient. Le sixième inconvénient, il est lié à ce concept-là aussi, c'est le manque d'éthique. Alors j'ai mis ça avec un point d'interrogation. Y a-t-il véritablement manque d'éthique ou pas? Le fait de profiter des baisses avec différents instruments pour profiter des baisses permettent d'apporter une certaine volatilité, une certaine liquidité sur les titres. D'accord? Alors j'ai mis manque d'éthique, point d'interrogation, parce que cet inconvénient-là, d'accord, c'est se voiler la face et c'est faire un petit peu la technique de l'autruche. On est dans un monde où on récompense ceux qui marchent, ceux qui réussissent, ceux qui gagnent, d'accord, aussi bien à titre individuel que groupe, que pour les entreprises aussi. Et à l'inverse, on pénalise ceux qui ne marchent pas, ceux qui échouent et ceux qui perdent. D'accord? Alors, si vous voulez changer ces mécanismes-là, qui existent depuis la nuit des temps, et de manière encore plus exacerbée sur les marchés boursiers, alors je vous souhaite un bon courage. Si vous pensez que de profiter des baisses n'est pas éthique, je vous invite aussi à aller donner votre argent aux entreprises qui battent de l'aile ou qui font du mauvais travail, et ensuite on en reparlera. Voilà, alors vous m'avez entendu dire tout au long de la formation GEBS qu'il fallait toujours être dans le sens de la tendance pour profiter des hausses. C'est pas toujours vrai, en revanche, pour pouvoir profiter des baisses. On a essentiellement vu une seule technique dans GEBS pour pouvoir profiter des hausses. Cette technique, c'était d'acheter tout de suite après une tempête haussière qui était provoquée suite à un calme plat. D'accord? On va voir différentes techniques dans GEBS à la baisse pour profiter des baisses. Et ces techniques ne reposent pas toujours exactement sur ce même concept. Alors on va quand même essayer d'aller chercher les mêmes comportements de la part des intervenants à travers le screener et les indicateurs. D'accord? Mais on va voir d'autres techniques particulièrement différentes de ce qu'on a pu faire à la hausse. Et donc, suivre la tendance, c'est toujours moins risqué que de chercher les tops, c'est-à-dire les sommets, pour essayer de profiter des baisses, d'accord? Ou de chercher des bottoms, des creux, pour essayer de profiter des hausses, d'accord? C'est difficile de déterminer et de connaître des plus bas. Un titre peut toujours chuter, chuter, chuter plus bas, et on croit qu'on a atteint un plus bas et on redécolle un petit peu, et puis finalement le titre continue à rechuter, d'accord? Mais en revanche, c'est plus facile de connaître les plus hauts quand tout s'effondre avec des forts mouvements de panique, alors qu'on était sur une tendance haussière. Donc, Quand une action commence à se relever après une très très longue baisse, l'effort qui est présenté pour se relever, le léger retour à la hausse, le rebond technique, d'accord, n'est pas nécessairement suffisant. À l'inverse, quand on a une action qui chute d'un coup après une longue tendance haussière, d'accord, elle a en général vraiment du mal à résister le mouvement de chute vers le bas et la descente aux enfers qui continue. Donc c'est une différence majeure qui existe entre les hausses et les baisses et la façon dont on va pouvoir profiter des deux aussi. Voilà, donc c'était plus facile de connaître les plus hauts que de connaître les plus bas. On arrive aux fameuses actions à effectuer comme d'habitude à la fin de chaque cours. Comme pour GEBS, ce premier cours est assez théorique pour vous mettre dans le bain. Donc il n'y a pas encore beaucoup de mise en pratique, c'est tout à fait normal. Mais ça va arriver très très vite dès le second cours de toute façon. Donc ce que je peux vous inviter à faire pour le moment, c'est premièrement dans Pre-Real Time essayer d'analyser des titres qui ont connu des sommets avec une forte chute pas loin de ce sommet pour que vous puissiez observer le comportement par la suite. Analysez aussi des titres que vous avez achetés en réel ou en test et qui se sont soldés par la suite par une perte alors que vous aviez appliqué la méthode correctement. D'accord? Alors si vous n'aviez pas appliqué la méthode correctement, il y a de très fortes chances pour que la baisse par la suite soit liée au fait que vous n'ayez pas appliqué la méthode correctement. Mais si vous avez appliqué la méthode correctement à la lettre, que vous aviez très peu d'éléments à éviter de préférence, et que tous les éléments essentiels étaient là et qu'il n'y avait aucun élément à bannir, d'accord? Revenez sur ces titres et essayez d'observer le comportement qui a eu lieu par la suite. Est-ce que le titre s'est redressé finalement et en fait vous avez été sorti trop tôt de votre position un petit peu par manque de chance, entre guillemets, ou bien est-ce que le titre a continué une longue, longue, longue descente par la suite après s'être retourné après la tempête haussière? Vous devez arriver à comprendre de plus en plus, de mieux en mieux ces comportements et donc celui des intervenants qui se cache derrière. Et enfin, essayez aussi par exemple de retrouver des exemples de climax run haussier, d'accord? Donc ces fameux feux de bouquet, ce fameux bouquet final à la fin d'une très très longue hausse. Donc c'est le fameux bouquet final après un feu d'artifice, donc une très très longue hausse, et on termine avec un fort mouvement haussier, donc une très forte, une très grosse bougie haussière avec un très grand gap haussier par exemple. Donc c'est la plus forte hausse jamais enregistrée avec potentiellement le plus fort volume aussi. Et si c'est pas les plus forts volumes, ce sont des volumes très très forts de toute façon. Donc essayez de retrouver des climax runs. Je vous invite à retourner voir le cours sur les climax runs et la partie graphique à ce sujet avec les différents exemples. Vous en avez peut-être rencontré d'autres aussi avec vos tests en environnement de démo et en réel, et je vous invite à aller regarder de plus près de nouveau ces Climax Run haussiers. Pour conclure, dans cette vidéo, on vient de voir le fonctionnement de cette nouvelle formation complémentaire pour profiter des baisses, et on a vu aussi les bases à connaître pour le faire correctement, comme notamment les différences avec les hausses, les avantages, les inconvénients et les risques liés à opérer à la baisse. Dans la prochaine vidéo, on va plonger dans la technique tout de suite, comme ça on en est débarrassé et vous avez rapidement les outils pour commencer à jouer et vous familiariser avec. On verra donc les nouveaux indicateurs techniques et le nouveau screener maison pour pouvoir détecter les fortes tempêtes baissières suite à un calme plat et nous permettre ensuite de travailler les différentes techniques. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!